Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Vendredi prochain aura lieu la première réunion de la conférence de Paris sur le Proche-Orient. Ni les Israéliens, ni les Palestiniens n'y participeront. Une nouvelle version donc de la chaise vide, sauf que là il y aura deux chaises vides. Une nouvelle version aussi de la journée de la marmotte. Vous savez, ce film où un personnage vivait chaque jour la même chose, car cette conférence et plus généralement ce processus de paix donne une impression de déjà-vu. Et pourtant, les choses changent au Proche-Orient. Bonjour Alain Diekhoff, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre de Recherche Internationale à Sciences Po Paris. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé « Le conflit israélo-arabe ». Vous êtes un expert reconnu et balancé de cette question internationale. Et c'est très compliqué d'avoir un point de vue balancé. Je vais essayer d'ailleurs de vous faire pencher d'un côté puis de l'autre en me faisant l'avocat du diable ou des diables de la région. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette conférence de paix et plus généralement dans le processus de paix au Proche-Orient ?
Malheureusement, non. En réalité, c'est vrai qu'il y a une impression de déjà-vu parce qu'on a déjà eu des épisodes un peu de même nature qui sont toujours un peu, qui se situent toujours un peu dans le même type de contexte, c'est-à-dire un contexte où il y a une sorte d'inertie diplomatique, où en même temps, on se rend bien compte que sur le terrain, il y a des choses qui bougent, en particulier du côté israélien, la poursuite de l'emprise territoriale sur la Cisjordanie. De l'autre côté, du côté palestinien, une crise très sérieuse, puisque depuis maintenant 10 ans, le Hamas est au pouvoir à Gaza. Et donc, dans ce contexte-là, on essaye de relancer un peu les choses avec en particulier une conférence, ce qui est en effet le cas de l'initiative française. C'est grosso modo, je dirais, pour montrer que il y a une partie, en tous les cas, de la communauté internationale continue à ne pas finalement complètement oublier le conflit israélo-arabe, malgré évidemment des urgences plus importantes. En particulier, on pense évidemment à la crise en Syrie.
Et justement, c'est cela en fait qui est très étrange, c'est qu'on a l'impression que toute la région bouge, tout autour donc d'Israël et des territoires palestiniens, et cependant, comment cela se fait-il qu'Israël et la Palestine demeurent dans un état d'immobilité, alors même qu'il y a la crise syrienne, alors même qu'il y a Daesh, alors même qu'il y a un changement d'alliance dans la région? Expliquez-nous, Alain Diekhoff.
Tout ça parce que, en réalité, les paramètres fondamentaux du conflit israélo-palestinien, qui sont là sans remonter aux origines, mais disons, si on se contente de remonter à 1967, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire à l'occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et du plateau du Golan, ces paramètres, ils sont toujours là. Ils n'ont pas changé depuis presque 50 ans maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, on a une occupation militaire, qui a changé en ce qui concerne Gaza, puisque les Israéliens sont retirés en 2005. Et de l'autre côté, un peuple palestinien qui, au moins pour la fraction de ce peuple qui se trouve en Cisjordanie à Gaza, cherche à obtenir finalement à réaliser son droit à l'autodétermination. Et on reste dans cette contradiction depuis 50 ans sans véritablement en sortir.
Si on fait un tour de la région, qu'est-ce qui a changé avec la crise syrienne pour ces deux entités, à la fois donc Israël et la Palestine ?
Je pense que ce qui a changé, mais en réalité ça n'a pas démarré avec la crise syrienne. Moi je suis de ceux qui pensent que à partir des années 90, en réalité, donc ça fait maintenant 25 ans, il y a eu, d'un point de vue strictement géopolitique, je dirais, le conflit israélo-palestinien est devenu moins central. Je ne dis pas symboliquement il demeure central, ça c'est certain. Mais je dirais politiquement, géopolitiquement, dans la région du Moyen-Orient, il est devenu un peu moins central qu'il ne l'était dans les années 50 et 60. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 50 et 60, il était véritablement structurant. Tout s'organisait autour du conflit israélo-arabe, en réalité, dans les années 50 et 60. Ça a progressivement changé dans les années 90, parce que il y a eu une sorte de décentrement vers le Golfe. la guerre Iran-Irak, ensuite les deux guerres du Golfe qui ont clairement montré qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était finalement indépendant du conflit israélo-palestinien. Et finalement, ce qui s'est passé avec la crise syrienne, c'est une nouvelle crise qui fondamentalement n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe, conflit israélo-palestinien, et qui une fois de et qui quelque part confirme, si vous voulez, cette mise en périphérie, relative bien évidemment, mais mise en périphérie malgré tout du conflit israélo-palestinien. Donc il est devenu moins important en un certain sens.
Mais symboliquement, il est toujours très important.
Oui, c'est bien pourquoi je fais une différence entre la dimension symbolique qui reste très très importante, hein, et évidemment qui est un élément de mobilisation, mais qui en même temps, il faut pas, je pense que malgré tout, géopolitiquement, il n'a plus la centralité qu'il avait. Ce qui explique aussi un certain désintérêt finalement de beaucoup de partis régionales et également de des partis extérieurs, y compris les États-Unis, même si de temps en temps ils se réinvestissent, hein, ils ne sont pas complètement à l'écart, n'ont pas complètement oublié le conflit. Mais bon, je pense quand même que la grammaire, comme on dit parfois, a changé.
Et à l'inverse, si on observe la situation à la fois en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, du point de vue, donc, cette fois-ci de l'évolution de la situation syrienne, le chaos en Syrie n'est pas une mauvaise affaire pour Israël.
Alors, évidemment, le fait que la Syrie, qui était finalement un État, un des derniers États qui était le plus actif dans, d'une certaine façon, dans la confrontation avec Israël en tant qu'État, c'est vrai que le fait qu'elle se trouve depuis 5 ans dans une situation de chaos, quelque part, est un facteur d'affaiblissement. Donc, en même temps, il y a aussi des éléments d'inquiétude parce que du fait que il y a une anarchie très grande qui règne en Syrie, ben il se trouve que par exemple certains groupes djihadistes se trouvent juste de l'autre côté du Golan, et de temps en temps il est déjà arrivé que des bombes du front al-Nosrat en particulier tombent du côté du israélien. Donc évidemment il y a un élément qui peut être aussi potentiellement dangereux si les groupes djihadistes, en particulier dans cette zone proche en réalité des frontières israéliennes, devenaient plus actifs, prenaient gagnaient du terrain. C'est un élément qui évidemment peut être inquiétant aussi pour Israël. Donc, je dirais le bilan est un peu mitigé.
Quelles sont les conséquences de l'accord sur le nucléaire iranien cette fois-ci ?
Alors, comme vous le savez, évidemment, l'accord a été vertement critiqué par Benjamin Netanyahou, parce qu'il considère que grosso modo, cet accord est un peu cousu de fil blanc, que finalement, il ne permettra pas à long terme de véritablement endiguer la volonté des Iraniens de se doter de l'arme nucléaire.
Iraniens ont berné, en quelque sorte, la communauté internationale.
Enfin, c'est l'interprétation, en tous les cas, dominante du côté israélien, qui n'est d'ailleurs pas uniquement cantonné à la droite, hein. On peut aussi trouver un certain nombre de dirigeants du Parti travailliste ou même d'adhérents qui pensent qu'en effet l'accord finalement n'est pas un bon accord. Cela dit, ce qui est certain, c'est que ça change quand même la donne. C'est-à-dire que ça change la donne dans la mesure où cet élément qui était un élément de cristallisation des tensions régionales, et en particulier évidemment avec une sorte de front commun en réalité entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, ça n'existe plus maintenant, puisque en effet les Américains ont choisi une autre voie, qui est la voie diplomatique, qui est la voie de l'accord. Et donc en ce sens-là, je dirais d'un point de vue géostratégique général, c'est quand même évidemment un mauvais point pour Israël.
Est-ce que cela a incité Israël à se rapprocher de l'Arabie Saoudite, puisqu'on parle de plus en plus d'un axe Tel Aviv-Riyad?
Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et c'est vrai que objectivement, ils ont le même ennemi. Ça c'est certain. C'est-à-dire que aussi bien l'Arabie Saoudite que les Israéliens continuent à penser que l'Iran est un État perturbateur et donc dangereux dans la région. Qui, alors évidemment, les Saoudiens sont obsédés par ce qu'ils appellent l'arc chiite, c'est-à-dire le fait que l'Iran soutienne le Hezbollah et d'autres groupes chiites, en particulier au Yémen. Tout cela est vu de façon très très inquiétante par les Saoudiens. Donc c'est vrai qu'objectivement, ils ont le même adversaire. Mais de là à véritablement imaginer quelque chose qui relèverait véritablement d'une alliance, je crois que c'est aller beaucoup trop vite en besogne, parce qu'évidemment, du côté saoudien, il y a aussi des obstacles rédhibitoires à un véritable rapprochement avec Israël, parce que d'un autre côté, ils sont quand même les gardiens d'une orthodoxie sunnite extrêmement claire, hein, qui est celle du wahhabisme, et qui évidemment pose quand même un problème fondamental pour un véritable rapprochement.
Si on élargit le regard, un autre jeu d'alliance qui est en train de changer, c'est celui qu'Israël avait naguère avec la Turquie.
Alors ça, c'est vrai. Là, depuis maintenant 5-6 ans, depuis l'attaque israélienne contre la flottille affrétée par des... par un groupe humanitaire proche du parti au pouvoir en Turquie. C'est vrai que les relations sont très tendues. Elles sont, je dirais, très limitées, hein, et en particulier tout le rapprochement stratégique qui avait eu lieu dans les années, à partir du milieu des années 90, a été grosso modo perdu. Et évidemment, du point de vue israélien, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc il y a eu des tentatives de rapprochement, mais les Turcs sont sur une position assez intransigeante. Ils exigent, outre des excuses, tout un tas de compensations, et les Israéliens n'ont pas été prêts, en tous les cas, à aller jusqu'au bout. Ils ont fait un peu la moitié du chemin, mais pas tout le chemin. Et donc, en réalité, on reste dans une situation où, pour le moment, on ne peut pas sortir de ce qui est finalement une sorte de gel, en réalité, des relations entre les deux États.
Le tableau que vous dressez, Alain Diekhoff, est assez paradoxal, parce qu'on se rend compte finalement qu'Israël a peu d'alliés, quasiment plus dans la région, sauf l'Arabie Saoudite, mais évidemment il est difficile d'assumer une telle alliance. Et pour autant, l'attitude d'Israël, et notamment celle de son premier ministre Benjamin Netanyahou, semble n'avoir jamais été aussi intransigeante.
Alors ça, c'est vrai, je permettrai juste d'ajouter une chose. Il y a quand même deux États arabes qui sont les deux États arabes avec lesquels Israël a fait la paix, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie, qui demeurent proches. Alors l'Égypte s'était un peu éloignée du temps des frères musulmans, mais depuis la prise de pouvoir par le maréchal Sisi, on peut dire qu'il y a une coopération très très forte, y compris au niveau sécuritaire, dont d'ailleurs le Hamas à Gaza se plaint, et la Jordanie reste sur une position très très proche. Mais par ailleurs, c'est vrai que Israël est relativement isolé dans la région, et en particulier la perte, disons, de cette allié stratégique qu'était la Turquie est très négatif pour Israël. En même temps, c'est indéniable que ça ne conduit pas le gouvernement à rentrer dans une logique, je dirais, de modération. Hein. C'est plutôt en réalité l'inverse qui se passe, puisque le dernier élargissement gouvernemental, l'inclusion d'Avigdor Lieberman et sa nomination comme ministre de la Défense, montre précisément l'inverse, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une logique de crispation nationaliste qui évidemment n'est pas propice à des ouvertures diplomatiques.
Alors peut-être faut-il présenter Avigdor Lieberman, qui est donc le dirigeant d'un parti qu'on peut qualifier de parti d'extrême droite, Israël Beitenu, Israël notre maison. Il a été tête de liste lors des élections législatives israéliennes de 2006 et de 2009. Aujourd'hui, il occupe une position importante. On le compare parfois à des dirigeants comme Trump ou Poutine. En tout cas, il relève de la même vague populiste.
Indéniablement. Ça, il n'y a aucun doute qu'il est vraiment dans cette logique politique. On pourrait aussi ajouter, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un rapprochement, quelqu'un comme Erdogan en Turquie, qui, à sa façon, représente la même chose. Oui, ça, c'est vrai que la décision, finalement, de Netanyahou d'inclure Lieberman ancre encore davantage ce gouvernement, qui était déjà pas mal ancré à droite, clairement dans ce camp-là, et n'est, comme je le disais, pas propice à une ouverture diplomatique. Je dirais que Netanyahou a fait là un choix politique, parce qu'il aurait eu une autre option en réalité. L'autre option, ça aurait été d'ouvrir sa coalition vers le Parti travailliste. Mais l'ouvrir vers le Parti travailliste aurait requis inévitablement une ouverture diplomatique. Donc en faisant le choix inverse, il a fait le choix, très clairement, de ne pas ouvrir diplomatiquement. Donc c'est quelque part un message. Et en ce sens-là, c'est vrai que la perspective de la relance d'un processus diplomatique initié par la France, n'est pas de très bon augure quand on voit ce qui s'est passé au niveau de l'ouverture, enfin du choix que Netanyahu a fait dans, dans, dans la composition du gouvernement.
Merci Alain Diekhoff. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le conflit israélo-arabe. On se retrouve à 8h20 pour évoquer cette fois-ci le sort des populations palestiniennes, la situation à Gaza. Nous serons rejoints par une jeune chercheuse, Leïla Sera, qui connaît particulièrement bien ces questions. 7h56 sur France Culture.